Bonjour, cher frère. Pendant que vous vous installez, je vais vous lire un article. Il va préparer le sujet de la prédication d'aujourd'hui. L'article s'intitule Combien d'heures les athlètes olympiques s'entraînent-ils? Vous vous êtes peut-être déjà posé la question. Peut-être pas. Je vais quand même vous le dire. Que vous vous soyez posé la question ou non, je vais vous dire combien d'heures les athlètes olympiques s'entraînent pour devenir si bons dans leur sport. Ce n'est pas un secret, les athlètes olympiques sont parmi les plus travailleurs qui soient. Les personnes qui participent aux Jeux olympiques ne se contentent pas d'aimer le sport qu'elles pratiquent, elles le vivent littéralement et consacrent souvent la majeure partie de leur vie à essayer d'atteindre leur objectif, qui est de remporter une médaille olympique. C'est certainement le cas des participants. Cet article date un peu des Jeux d'hiver de 2018. Mais combien d'heures les athlètes olympiques consacrent-ils réellement à l'entraînement avant la grande compétition? La réponse est un peu plus compliquée que vous ne le pensez. Il n'existe pas de programme d'entraînement spécifique que chaque athlète olympique suit. Le temps passé à s'entraîner est différent pour chacun d'entre eux. C'est logique. Il varie en fonction du sport, de l'athlète, de la période de l'année et ainsi de suite, mais il existe bien sûr une moyenne. Un article paru en 2008 dans Forbes indique qu'il est courant pour les athlètes olympiques de passer 4 à 8 ans à s'entraîner dans un sport avant de faire partie d'une équipe olympique. Ils planifient leur programme d'entraînement des années à l'avance afin de pouvoir travailler et atteindre des objectifs spécifiques. La gymnaste américaine Simone Biles a déjà déclaré qu'elle s'entraînait 32 heures par semaine avec un jour de repos. La gymnaste Gabby Douglas a déclaré qu'elle s'entraînait de 8 heures à midi, qu'elle faisait une pause pour le déjeuner et qu'elle continuait à s'entraîner jusqu'au dîner. Littéralement, c'est leur vie. C'est ce qu'ils font. Michael Phelps a déclaré à CNN qu'il s'entraînait tous les jours dans la piscine pendant 3 à 6 heures et qu'il faisait des exercices séparés sur la terre ferme, 4 à 5 jours par semaine. La cycliste Kristin Armstrong a déclaré qu'elle roulait de 20 à 25 heures par semaine et qu'elle s'entraînait pendant 10 jours avant de faire une pause. Avant les Jeux olympiques de Londres en 2012, une étude a révélé que certains athlètes s'étaient entraînés pendant 10 000 heures avant les Jeux. On a l'impression que les athlètes ne font que s'entraîner, mais ce n'est pas vrai. Une étude réalisée par la psychologue Brooke Intel et son équipe a examiné l'entraînement et les performances de près de 3 000 athlètes dans le cadre de 34 études distinctes, et ce qu'ils ont découvert est surprenant. L'entraînement ne compte que pour 18% des performances. Que font d'autres les athlètes pour se préparer aux Jeux olympiques? Tout d'abord, ils dorment, ils se reposent suffisamment. C'est extrêmement important pour les athlètes. Ils ont besoin de leur corps, sinon ils ne pourront pas s'entraîner de manière optimale. Ils doivent également surveiller leur alimentation, manger correctement pour l'entraînement et s'hydrater. Ensuite, il y a la préparation mentale. Littéralement, la préparation des Jeux olympiques est une activité dévorante. Qu'ils dorment la nuit, qu'ils mangent le jour, qu'ils s'entraînent, tout ce qu'ils font a pour but d'atteindre cet objectif. Ils doivent être dans le bon état d'esprit pour rester au top de leur forme. Dans l'ensemble, il semble que les athlètes olympiques s'entraînent sans relâche. Ils semblent s'entraîner à peu près aussi longtemps que les autres. Nous avons tous un emploi à temps plein, mais lorsqu'ils s'entraînent pour les Jeux olympiques, leur esprit est constamment tourné vers cet objectif. Je pense que vous avez vu les hommes les plus forts du monde, certains de ces géants. Brian Shaw est l'un des hommes les plus forts du monde. 4 fois élu homme le plus fort du monde, et il pèse 1,5 kg. Du moins à son apogée, c'est ce qu'il faisait. Il mangeait. Une partie de son entraînement, une grande partie de son entraînement, en plus de l'haltérophilie et du lancer d'objets lourds, consiste à manger 12 000 calories par jour. Vous pourriez penser que l'entraînement est la partie la plus difficile. Non, 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 c'est l'alimentation qui est la partie la plus difficile. Manger autant de calories chaque jour est une tâche presque insurmontable. Mais c'est ce qu'il a dû faire pour obtenir 4 fois le titre d'homme le plus fort du monde. Quel est le rapport avec la fée des tabernacles? Oh, oh là là, regardez. Regardez ce qu'il y a encore ici. Nous devrons l'enlever après l'office. Après avoir consacré tant de temps et d'énergie à l'entraînement olympique, à ces efforts gigantesques, qu'ont-ils accompli? Qu'ont-ils obtenu? Quelle a été leur récompense à la fin? Brillant Chaud, un homme très sympathique, a passé toute sa vie à se concentrer sur son objectif de devenir l'homme le plus fort du monde. Qu'a-t-il obtenu à la fin? Il a obtenu un titre. Il a probablement gagné quelques médailles, peut-être des trophées ou quelque chose comme cela. Il a probablement gagné un peu d'argent. Il a certainement connu la gloire et la presse. On peut dire que c'est vrai pour tous les athlètes. Et il n'est même pas nécessaire qu'il s'agisse d'athlètes. Nous pourrions parler d'un grand mathématicien. Que recherche-t-il dans la vie? Quelle est la grande récompense d'être l'un des plus grands mathématiciens du monde? C'est peut-être de recevoir le prix Nobel ou quelque chose comme cela. C'est l'objectif. Ils ont un objectif à la fin, mais il ne s'agit que de trophées, de titres, de presse, de célébrités. C'est tout, jusqu'à ce que le prochain homme le plus fort du monde arrive, prenne le titre, batte les records. La personne qui a travaillé toute sa vie pour atteindre ce seul objectif a tout perdu à ce moment-là. Les récompenses de cette vie sont très temporaires. Passez au psaume 49. Les gens passent toute leur vie à atteindre certains objectifs afin de recevoir cette récompense, cette grande récompense d'une médaille d'or, cette grande récompense d'être appelé l'homme le plus intelligent du monde, peut-être. Mais que dit Dieu au sujet des récompenses que nous recevons dans cette vie? Êtres humains, qu'est-ce que Dieu a en tête à propos de ces récompenses? Nous lisons dans le psaume 49, au verset 16. Ne craignez pas de vous enrichir. D'accord. Beaucoup de gens recherchent la richesse, et c'est une partie de leur récompense. Quand la gloire de sa maison s'accroît. Car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien. Sa gloire ne descendra pas après lui. Nous ne pouvons pas emporter de récompense physique dans la tombe. Pas de médaille, pas de titre, rien. Toutes les récompenses de cette vie sont temporaires, physiquement parlant, bien sûr. Lorsque l'on meurt, on ne peut pas emporter ses réalisations dans un au-delà, car nous savons que lorsque nous mourrons, nous entrons dans la tombe et nous attendons la résurrection. Les récompenses que les gens recherchent dans la vie sont donc temporaires. Comme les cabanes que nous habitons ici à la fête, des habitations temporaires. Elles ne sont pas permanentes. Elles ne durent pas éternellement. Mais je pourrais poser la question, frère, quand est-il de nos récompenses? Chrétiens, nous passons tous notre vie à endurer épreuve après épreuve dans l'intérêt de Dieu. On pourrait dire que nous sommes comme ces athlètes olympiques. Nous sommes comme ces grands mathématiciens qui passent leur vie à se concentrer sur un grand objectif, mais notre récompense est très différente. Nous pourrions nous demander si notre récompense est temporaire, comme leur récompense. Passez au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15. Je ne lirai qu'un seul verset. Paul a dit, Dans le chapitre 15 et le verset 19 des 1 Corinthiens, si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie, nous sommes de tous les hommes les plus malheureux. En d'autres termes, si notre récompense n'est que la même récompense physique que toute l'humanité, les babioles, les médailles d'or, les titres, l'argent que les gens jetteront dans la rue plus tard parce qu'il est sans valeur et inutile, qu'il ne les aide pas, si notre récompense dans cette vie n'est que cela, qu'elle est temporaire, alors nous, frères, sommes de tous les hommes les plus malheureux parce que nous vivons le genre de vie le plus difficile qui soit. Nous vivons une vie d'épreuve, après épreuve, après épreuve, en servant Dieu, mais sans recevoir de récompense physique dans cette vie. Nous ne sommes pas bénis par le monde qui nous entoure. Nous ne recevons pas de titres, d'argent, de médailles d'or pour être chrétiens dans cette vie. Ce n'est pas le cas. Notre récompense est plus loin. Nous devons voir notre récompense dans le futur, au loin. C'est pourquoi Paul a dit, si nous n'obtenons rien après cette vie, si nous n'obtenons rien pour la vie que nous devons mener, pour les souffrances que nous devons endurer en tant que chrétiens, nous sommes vraiment, de tous les hommes, les plus malheureux. Mais ce n'est pas le cas. Passons à 2 Jean, chapitre 1, excusez-moi, Apocalypse 22. Apocalypse 22. Apocalypse 22 et le verset 12 que nous lisons. Apocalypse 22, 12. Nous pouvons reprendre au verset 11, au verset 9. Il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service. Car je suis ton compagnon de service, de tes frères les prophètes, et de ceux qui observent les paroles de ce livre. Adorez Dieu. Il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé soit encore souillé. Que celui qui est juste soit encore juste. Et que celui qui est saint soit encore saint. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Chaque personne à un moment donné, les saints, principalement, c'est ce dont il s'agit, les saints seront récompensés à un moment donné. Notre récompense n'est pas pour tout de suite. Notre récompense ultime n'est pas pour tout de suite. Nous pouvons être bénis dans cette vie. Nous pouvons recevoir de nombreuses bénédictions dans certaines petites récompenses à cet égard. Nous sommes récompensés et bénis chaque fois que nous servons les autres. Il est plus heureux de donner que de recevoir, mais notre véritable récompense, dans son sens le plus complet, viendra plus tard. Dieu nous la donnera à la fin de notre vie, à son retour. Et nos œuvres dans cette vie ne seront pas vaines. Notre poursuite, dont Paul a parlé, serait de tous les hommes la plus malheureuse. Nous ne sommes pas les plus malheureux des hommes parce que nous avons la récompense qui nous attend. C'est pourquoi nous ne sommes pas malheureux. Si nous n'avions pas cette récompense, nous serions malheureux. C'est ce que dit Paul. Passons donc au 2e chapitre de Jean. Quelques pages en arrière. 2e Jean, chapitre 1, et il n'y a qu'un seul chapitre. 2e Jean, et nous allons lire un verset. Le 8e verset dit ceci. Veillez sur vous-même, afin que nous ne perdions pas ce que nous avons fait, mais que nous recevions une pleine récompense. C'est notre but, mes frères, c'est la pleine récompense dont Jean a parlé. Oui, nous sommes comme des athlètes olympiques. Nous devons passer toute notre vie, que nous dormions, que nous mangions, que nous soyons en communication avec les gens du monde, les frères de l'Église, que nous soyons en train de fraterniser, quoi que nous fassions dans notre travail, nous sommes des chrétiens à plein temps. Nous passons en fait plus de temps à être chrétien que les athlètes olympiques ne s'entraînent pour les Jeux olympiques. Nous n'avons jamais un jour de congé, même le sabbat. Nous sommes toujours chrétiens. Nous sommes toujours au travail. Nous faisons toujours notre travail, et Dieu va nous récompenser pour cela. Et il dit qu'il ne se contentera pas de nous récompenser, mais qu'il nous donnera notre pleine récompense. Alors, bien que nous ayons entendu plusieurs ou tous les points que nous allons aborder aujourd'hui, nous allons passer en revue notre récompense. Nous allons parler de la grande récompense que nous recevons, vous et moi, et à laquelle nous aspirons. C'est une récompense beaucoup plus puissante et permanente que celle que le monde obtient. Nous ne cherchons pas de médaille d'or. Nous ne cherchons pas la presse. Nous ne cherchons pas la célébrité. Nous recherchons quelque chose et beaucoup de choses bien plus grandes que cela. Frères et sœurs, nous avons probablement entendu beaucoup de ce dont je vais parler aujourd'hui dans divers messages, mais j'oserais dire. Je suppose que nous ne les avons jamais entendus réunis d'une manière telle que vos esprits seront époustouflés à la fin de ce message. J'avais hâte de donner ce message parce que c'est tellement, en parcourant ces versets, j'étais tellement excité pour chacun d'entre vous. Dans un avenir très proche, nous pourrions tous recevoir ces mêmes choses dont nous allons parler aujourd'hui. Et nous allons commencer modestement. Nous allons commencer par parler de la façon dont vous pouvez, passons au chapitre 14 de l'Apocalypse, comment nous sommes les seules personnes, c'est, nous commençons modestement, remarquez bien. Nous sommes les seuls, dans toute l'humanité qui n'a jamais vécu, à faire partie des 144 000. D'accord, c'est un petit point. Passons au chapitre 14 de l'Apocalypse, et commençons à lire. Je regardais, et voici, un agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son père écrit sur leur front. 144 000 saints. On a estimé à 100 milliards le nombre de personnes ayant vécu sur terre, mais qui sait avec tous les gens, avec tous les bébés morts dans le ventre de leur mère, avec tous les avortements que l'on voit dans le monde. Vous savez, dans la société d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de naissances, en partie grâce au progrès de la technologie médicale. Cela aide. Grâce aux césariennes et à d'autres techniques de ce type, il est possible de protéger et de sauver certains bébés, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le taux de natalité, le nombre de bébés qui peuvent naître aujourd'hui est donc plus élevé à cet égard, mais les gens ne veulent plus autant avoir d'enfants de nos jours, ce qui est tout simplement la nature de la fin de l'âge. Mais 144 000. Pensez à ce nombre, et à quel point il est minuscule par rapport à 100 milliards. Il est minuscule. C'est absolument minuscule. Mais pourtant, frères, nous sommes entraînés pour ce nombre, pour faire partie de ce nombre, un de ces 144 000, pour le reste de l'éternité. J'entendis du ciel une voix, comme la voix de grandes eaux et comme la voix d'un grand tonnerre, et j'entendis la voix de joueurs de harpes qui jouaient de leurs harpes. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les quatre êtres vivants et devant les vieillards. Et nul ne pouvait apprendre ce cantique, si ce n'est les 144 000 rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Ce sont les choses qu'ils ont faites dans leur vie pour faire partie des 144 000. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Ce sont celles qui suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, pour être les prémices de Dieu et de l'agneau. Il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont irréprochables devant le trône de Dieu. Nous faisons partie des 144 000 prémices pour l'éternité. Jamais personne ne nous supplantera dans les 144 000 premières. Ce n'est pas parce que nous sommes si grands, si merveilleux que nous pouvons faire partie de ces 100. Non, c'est Dieu qui nous a appelés. Ce n'est pas à cause de nous. C'est parce que Dieu nous a appelés. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est Dieu le Père qui nous appelle à sortir du monde. Quand je suis entré dans la vérité, je ne cherchais pas la vérité. Je ne cherchais pas. C'était comme si une enclume était tombée du ciel. Tout à coup, mon frère et moi sommes tombés sur la vérité et nos yeux se sont écarquillés. On m'a menti toute ma vie. Mes frères, les personnes qui ne sont pas appelées dans ce monde ne voient pas cela. Ils ne voient pas les choses simples que vous et moi pouvons lire clairement dans la Bible, à savoir qu'aucun homme ne monte au ciel. Nous n'allons pas au ciel quand nous mourrons. Ils ne peuvent pas comprendre cela parce qu'ils ne sont pas encore appelés. Ils ne sont pas encore appelés parmi les 144 000. Ils seront appelés dans la famille de Dieu, ne vous inquiétez pas. Ils auront leur chance. Mes frères, vous et moi sommes dans quelque chose de très spécial, de très unique. C'est une chose étonnante à considérer. Et encore une fois, ce n'est que le premier d'une longue série de points. Passons à la première Thessaloniciens 4. Qu'allons-nous recevoir, vous et moi? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, vers le verset 14, peut-être 13. Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce qui concerne ceux qui se sont endormis, les frères qui sont morts dans le passé, afin que vous ne vous affligiez pas. Ne vous attristez pas pour eux. Ils sont morts. Leur place est réglée. Pensez-y de cette façon. C'est merveilleux. Comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous avons de l'espoir. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de nous affliger. Bien sûr, nous portons le deuil pendant un certain temps lorsque les gens meurent. Nous ne voulons jamais voir les gens mourir. Franchement, la mort n'est qu'une chose horrible, horrible, qui sera engloutie dans la victoire plus tard. Mais continuons à lire le verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même ceux qui dorment en Jésus, Dieu les amènera avec lui. Cela fait partie de la récompense. Si nous mourons dans la foi ou si nous sommes en vie jusqu'au moment où Dieu fera en sorte que cela se produise, nous verrons Dieu venir avec tous les saints. Continuons à lire. Nous vous disons en effet, par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui resterons pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un grand cri, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront les premiers. Puis nous, les vivants, nous serons enlevés avec eux, tous, Dieu et tous les saints, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons pour toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Je vous réconforte avec ces paroles en ce moment même, car c'est votre récompense. À un moment donné, nous rencontrons le Père, et nous sommes les premiers à le rencontrer. Nous sommes les premiers pour toute l'humanité à rencontrer le Père. Cela signifie rencontrer le Père. Pouvez-vous imaginer rencontrer le Père avec tous les saints, et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur? Les 144 000 rencontrent Dieu dans les airs et sont avec lui pour l'éternité. Dans Apocalypse 22, vous pouvez vous tourner vers là, il est dit ici dans Apocalypse 22, versets 1 à 4, que les 144 000 rencontreront Dieu dans les airs et seront avec lui pour l'éternité. Non seulement nous rencontrons le Père, mais nous le voyons tel qu'il est. Il est dit ici dans l'Apocalypse 22, premier verset. Il me montra un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place du fleuve et sur les deux rives, il y avait l'arbre de vie, qui portait 12 espèces de fruits et donnait du fruit chaque mois. Nous ne voyons pas d'arbre comme celui-ci. Cet arbre qui produit des fruits tous les mois, c'est un autre arbre, d'autres fruits. Les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction, mais le trône de Dieu et de l'agneau y sera, et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Frères et sœurs, ce que nous obtenons juste pour être dans ces 144 000, les premiers à être dans la famille de Dieu, les premiers à voir Dieu, les premiers à le voir descendre, c'est une chose étonnante. Mais encore une fois, nous ne faisons que nous échauffer. Passons au chapitre 2 de l'Apocalypse, quelques chapitres plus tôt. Voyons un certain nombre de choses qu'il a été dites à chacune des époques de l'Église qu'elles allaient recevoir, dans le cadre de leur récompense. Et tout cela est qualifié par « à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra ». Pour celui qui s'entraîne toute sa vie pour les Jeux Olympiques, vous obtiendrez une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Eh bien, à celui qui vaincra dans la chrétienté. Le verset 7 d'Apocalypse 2 dit, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu. » Il n'y a pas d'arbre comme celui-là aujourd'hui. Verset 11. Celui qui vaincra ne souffrira pas de la seconde mort. Verset 17. Je donnerai à celui qui vaincra à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, sur lequel sera écrit un nom nouveau, que nul ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Dieu va nous donner ces choses. Il va nous donner un caillou blanc sur lequel est inscrit un nouveau nom que nous recevrons tous. Et encore une fois, au verset 26. Apocalypse 2, 26. Celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai le pouvoir sur les nations, il les gouvernera avec une verge de fer, et les brisera comme les vases d'un potier, ainsi que je l'ai reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Nous reviendrons sur ce point d'une certaine manière dans un moment. Chapitre 3 et verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Stupéfiant. Verset 12. Je ferai de celui qui vaincra une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Nous serons un élément permanent de la nouvelle Jérusalem, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et j'écrirai sur lui mon nouveau nom. Nous recevons le nom de Dieu, nous recevons le nom du Christ et nous recevons un nouveau nom. Et au verset 21. À celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Frères et sœurs, nous venons de voir que nous aurons. L'un d'entre eux a parlé de la façon dont nous aurons la nouvelle Jérusalem. Lequel était-ce déjà? Attendez une seconde. Oui, à Philadelphie. Verset 12. 3. 12. Je ferai de celui qui vaincra une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel. Passez à l'Apocalypse 21. D'une certaine manière, ce sont de petites choses. Nous recevons un nouveau nom. Le nom de Dieu le Père est écrit sur nous, et le nom du Christ est écrit sur nous de façon permanente. Nous aurons accès à la nouvelle Jérusalem. Frères et sœurs, ce sont de toutes petites choses que nous obtenons pour la vie éternelle. C'est vraiment une chose dont on n'a presque aucune idée. C'est tellement étonnant ce que Dieu a en réserve pour nous. Passez à Apocalypse 21 et au verset 10. Nous pouvons faire partie de cette nouvelle Jérusalem, la voir, y entrer et y demeurer avec le Père pour l'éternité. Verset 10. Il vint à moi et m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande ville, la Jérusalem sainte, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, et qui avait la gloire de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu, et sa lumière était semblable à une pierre très précieuse, à une pierre de jaspe, limpide comme du cristal. La nouvelle Jérusalem. Elle avait une grande et haute muraille, 12 portes, et aux portes 12 anges, sur lesquels étaient écrits les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. Nos noms y sont inscrits. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et les noms des 12 apôtres de l'agneau y étaient inscrits. Celui qui parlait avec moi avait un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville est carrée sur 4 côtés, et sa longueur est aussi grande que sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, 12 000 stades, 1 500 000 de côté. La longueur et la largeur étaient l'une et l'autre de 1 500 000. Il mesura la muraille, 144 coudées, selon la mesure d'un homme, c'est-à-dire d'un ange. La construction de la muraille était de jaspe, et la ville était d'or pur, comme un verre transparent. Les fondements de la muraille de la ville étaient garnis de toutes sortes de pierres précieuses. Si nous pensons qu'il est spécial d'avoir une bague, peut-être qu'une femme a une belle bague avec une pierre précieuse ou un diamant, à quel point est-il spécial qu'une ville entière soit construite avec ces pierres précieuses? Les fondements de la muraille étaient garnis de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude. Le cinquième était un sardonyx, le sixième un sardoine, le septième un chrysolite et le huitième un béryl. La neuvième topaze, la dixième chrysoprase, la onzième jacinthe, la douzième améthyste. Nous pourrons. L'une des récompenses est que nous pourrons prononcer ce mot dans le royaume. Aucun problème, mes frères. Absolument aucun problème. Et les 12 portes. Les 12 portes étaient de 12 perles. Chaque porte était d'une perle. Quelle taille d'huître, mes frères? Les rues de la ville étaient d'un or pur, comme du verre transparent. Je n'y vis point de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Telle est notre récompense. Dieu nous la porte. Nous y demeurerons, vous et moi. Nous serons avec Dieu pour toujours. Mais mes frères, c'est seulement de cela que nous parlons. Dans le grand ordre des choses, nous parlons d'une ville. C'est une ville. Mais une toute petite fraction de notre récompense est de faire partie de la nouvelle Jérusalem. Allez au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. À la fin de ce chapitre, nous lirons le verset 13. Il s'agit de la fin du chapitre sur la foi, qui énumère toutes ces personnes merveilleuses, ces grandes personnes, qui ont vécu une vie de foi juste. Le point culminant est le verset 13. Il est dit que tous ces gens, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, et ainsi de suite, sont morts dans la foi. Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les promesses, ils n'ont pas encore reçu leur récompense, mais les ayant vus de loin, ils en ont été persuadés. Frères et sœurs, sommes-nous persuadés de ces mêmes récompenses dont Abraham, Sarah, Noé et tous les patriarches, tous les grands personnages de la Bible, étaient persuadés? En sommes-nous persuadés nous aussi? Ils les ont embrassés et ont confessé qu'ils étaient des étrangers et des pèlerins sur la terre parce qu'ils ne recevaient pas leur récompense dans cette vie. Ils ne cherchaient pas une médaille d'or aux Jeux olympiques. Ils cherchaient la nouvelle Jérusalem. Ils cherchaient cette pierre blanche. Ils ne le savaient peut-être même pas. L'Apocalypse n'a pas été écrite par eux. Peut-être que Dieu leur en avait parlé, mais qu'il ne l'a pas consigné. Mes frères, ils étaient persuadés de la récompense que nous recevons parce qu'ils recevront la même récompense. Vous savez, l'un des points suivants en tant que famille de Dieu, l'une des grandes récompenses que nous obtenons est de faire partie de la famille de Dieu. Passez au psaume 82. Psaume 82. Il va en quelque sorte de pair avec le dernier point, mais le psaume 82, au verset 6, dit ceci, « J'ai dit, vous êtes des dieux, et vous êtes tous des enfants du Très-Haut. » Le monde ne comprend pas cela. Les Juifs ne le comprenaient pas dans le Nouveau Testament, mais vous êtes des dieux. Notre but, notre récompense, ce n'est pas seulement d'avoir la vie éternelle, ce n'est pas seulement de vivre pour toujours. Les gens dans le monde le comprennent ou le croient. Ils pensent que l'on va au paradis quand on meurt. C'est leur récompense, mais nous, frères, nous recevons quelque chose de bien plus puissant. Nous devenons des dieux. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Beaucoup de gens dans cette vie n'ont pas de famille. Vous savez, Dieu n'appelle pas dans l'Église des gens qui sont issus des grands milieux des Rockefeller, ou de ce côté-ci des autres gens, les Gatt. Il n'appelle pas beaucoup de gens qui sont très connus dans ce monde. Il appelle le groupe des premiers Corinthiens qui dit, les faibles, les vils, les insensés, les choses qui ne sont pas, les choses qui sont méprisées. Nous ne sommes pas les grands et puissants de la terre, mais c'est pourtant Dieu qui a dit que nous allions être Dieu. Il nous a peut-être appelés à sortir de familles brisées. Beaucoup d'entre nous ont peut-être des familles brisées. Peut-être n'avons-nous pas grandi avec deux parents. L'un d'eux est parti, ou ils ont divorcé. Ou bien nous avons eu des problèmes dans la famille. Peut-être que des personnes sont mortes dans la famille. Des frères et sœurs sont morts. Des familles brisées. Toutes sortes de problèmes peuvent survenir dans les familles, des querelles et des disputes. Dans cette vie, les familles ne sont pas nécessairement toutes bonnes. Mais Dieu veut qu'elles soient bonnes. Il veut que vous et moi entrions dans sa famille pour que nous puissions faire l'expérience de ce qu'est une bonne famille, une famille digne de ce nom, une vraie famille. Près d'un enfant américain sur quatre n'a qu'un seul parent. C'est triste. Seul un enfant sur quatre a deux parents. 40 à 50% des mariages se terminent par un divorce. Vous ne pensez pas que le monde cherche un moment où il pourrait avoir une famille convenable, une bonne chance d'avoir une famille convenable? Si nous entrons dans la famille de Dieu, nous leur montrerons comment construire une famille digne de ce nom. 60 à 70% des seconds mariages se terminent par un divorce. Environ 50% des premiers mariages se terminent par un divorce. Et si vous divorcez, la prochaine fois que vous vous mariez, dans presque deux tiers des cas, ces personnes divorcent. Le mariage est brisé dans ce monde. Les familles sont brisées dans ce monde. De nos jours, les familles ne sont même pas encouragées. Satan déteste la famille, mes frères, mais il viendra un temps où toute l'humanité aura l'occasion de rejoindre la famille la plus parfaite. Encore une fois, cela fait partie de notre récompense. Passons donc au point suivant, à quoi vous ressemblerez? À quoi vous ressemblerez? Nous n'avons pas besoin de passer beaucoup de temps sur ce point parce que nous avons tous lu Ézéchiel 1. Pourquoi ne pas écrire ces versets dans votre Bible ou dans vos notes? Nous avons beaucoup parlé de ce sujet récemment. Monsieur Pack en a parlé récemment. Nous brillons. Nous sommes dans la gloire. La taille que nous avons. Je veux dire, nous sommes des êtres spirituels, mes frères. Nous pouvons avoir la taille que nous voulons. Mais notez dans vos notes le chapitre 1 d'Ézéchiel. Vous pouvez lire ce chapitre en entier, surtout vers la fin, il montre à quoi ressemble Dieu. Après avoir décrit ces magnifiques chérubins, les roues, tout ce qui se passe dans cette image. Vous pouvez écrire Apocalypse 1, versets 12 et 20. Prenez le temps de vous inspirer de ce à quoi vous ressemblerez dans l'avenir. Et frères, Jean 4 et le verset 24. Nous n'avons pas besoin de tourner là parce que tout ce qu'il dit, c'est que Dieu est un esprit. L'une des grandes récompenses que nous avons, c'est que nous ne recevons pas seulement le Saint-Esprit de Dieu, mais que nous devenons le Saint-Esprit. Nous sommes faits de l'Esprit de Dieu. Cela nous donne la capacité de faire toutes les choses que Dieu fait. Nous allons briller, nous allons resplendir. Nous allons recevoir des trônes et des couronnes. Mes frères, d'une certaine manière, ces choses, ce à quoi nous ressemblerons, ne sont pas importantes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas grave de savoir à quoi nous ressemblerons. C'est mieux que ce à quoi nous ressemblons maintenant. Nous en sommes reconnaissants, mais... Je n'avais pas l'intention d'être drôle, mais je suis content que cela l'ait été. C'est vrai. C'est vrai. Mais vous savez pourquoi ces choses ne sont pas aussi importantes? Parce qu'elles sont personnelles. Elles ne profitent pas aux autres. Il n'est pas forcément utile aux autres de briller. Il n'est pas utile aux autres de savoir que nous avons. Nous aurons deux mains comme Dieu. Nous aurons deux yeux comme Dieu. Nous allons être faits d'esprit comme Dieu. Ce sont des choses merveilleuses et elles doivent être exposées. Mais le grand dessein que Dieu nous a donné, les plus grandes récompenses impliquent que nous soyons capables de sortir et d'aider tout le monde. C'est la plus grande récompense, et nous y reviendrons. Trône, couronne, vêtements blancs, resplendissement, cheveux blancs. Beaucoup d'entre nous y sont déjà. Je n'y suis pas. Mais je suis en train de perdre tout ce qu'il y a au-dessus. Alors au moins vous avez des cheveux blancs si vous avez des cheveux blancs, d'accord? Mais le plus important, mes frères, c'est ce que nous allons faire. Passons au chapitre 19 de Luc. Luc, chapitre 19. C'est la parabole des livres. Tout cela est très familier. Que ferez-vous en guise de récompense? Beaucoup de gens pensent que leur récompense est de... Ma récompense, c'est d'aller me prélasser sur la plage, par exemple. Ma récompense, c'est juste, après avoir gagné tout cet argent dans cette vie, de m'asseoir et de regarder ma vitrine à trophées ou quelque chose comme cela, de regarder tous les beaux trophées que j'ai accumulés. Notre récompense est différente. Notre récompense consiste à sortir et à faire quelque chose. Nous avons l'occasion de servir davantage. Nous servons beaucoup dans cette vie afin d'avoir l'occasion de servir non seulement quelques personnes dans l'église ou les quelques personnes avec lesquelles nous sommes en contact dans la vie. Nous avons l'occasion de servir toute l'humanité, toutes nos familles, toutes les personnes qui nous ont permis d'exister. Vos parents, vos grands-parents, tous vos ancêtres, nous avons la possibilité de les aider tous. C'est extraordinaire. C'est une grande récompense. Mais voyons ce qu'il en est. Commençons paragraphe une petite chose. Luc 19, verset 15. Après que Dieu a dit, au verset 12. Il y a un noble qui était venu dans un pays lointain pour recevoir un royaume à retourner. Il appela ses 10 serviteurs et leur remit 10 livres. Et il leur dit, occupez-vous jusqu'à ce que je vienne. mais les citoyens le haïssaient et lui envoyèrent un message disant « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Lorsqu'il fut de retour, après avoir reçu le royaume, il ordonna qu'on appelât auprès de lui les serviteurs à qui il avait remis l'argent, afin qu'il sût combien chacun avait gagné en faisant du commerce. Verset 15. Le premier vint et dit, « Seigneur, votre livre vous a rapporté 10 livres. » Et il leur dit, « Eh bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le pouvoir sur 10 villes. » On leur donna des villes. Le second vint et dit, « Seigneur, ta livre t'en a fait gagner 5. » Et il lui dit de même, « Aie aussi autorité sur 5 villes. » Et puis il y avait celui qui était paresseux et qui ne faisait pas croître sa livre, et sa livre lui était enlevée. Mes frères, il s'agit ici de comprendre que nous allons être à la tête de ville. Ce n'est que le début de ce qui nous attend. Ce n'est que le début. Nous passons au chapitre 9 d'Ésaïe. Le point le plus important ici, c'est que nous allons faire partie du gouvernement de Dieu. Les gouvernements des hommes règnent sur les villes, les états, les provinces, les nations. Ce sont ces gouvernements qui déterminent le sort de la nation. Examinons rapidement le gouvernement de Dieu. Quel est l'impact du gouvernement de Dieu sur le monde? Ésaïe, chapitre 9 et verset 7. L'accroissement du gouvernement et de la paix de Dieu sera sans fin, sur le trône de David et sur son royaume, pour l'ordonner et l'affermir par le droit et la justice, dès maintenant et à jamais. Le zèle du Seigneur des armées l'accomplira. Il y aura un moment où le gouvernement de Dieu viendra sur la terre, et quand il viendra, vous et moi entrerons dans ce gouvernement comme faisant partie des 144 000. C'est comme si un président entrait en fonction et se voyait soudain confier des pouvoirs considérables. S'il est président des États-Unis, il devient l'être humain le plus puissant de la planète, car l'Amérique est la nation la plus puissante du monde à l'heure actuelle. Mais le problème des gouvernements de ce monde est qu'ils ont des lois inefficaces, une exécution inefficace de ces lois, une justice inefficace. Tout ce qui concerne les gouvernements du monde est cassé. Il y a de la corruption à gauche et à droite. Et frères, lorsque vous voyez tous ces problèmes au sommet d'un gouvernement qui est censé dominer les nations qu'il dirige, ces problèmes se répercutent vers le bas. Nous voyons beaucoup d'inflation aujourd'hui à cause des problèmes de gouvernement, des fermetures de gouvernement. Toutes sortes de problèmes se posent en Amérique, sans parler du monde entier. Une grande partie de l'économie mondiale repose sur le dollar. Si le dollar commence à s'effondrer, c'est toute l'économie mondiale qui en pâtit. Ainsi, mes frères, les problèmes des gouvernements d'aujourd'hui affectent profondément tous les peuples sous ces gouvernements. Si vous venez en Amérique, qui est théoriquement dotée d'une constitution, qui est peut-être le document le plus remarquable jamais produit par l'humanité, cette constitution est le fondement du gouvernement américain. C'est ce qui permet au gouvernement américain d'être ce qu'il est aujourd'hui. Le gouvernement américain est composé de 3 branches. Il se compose du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Ces 3 branches sont dotées chacune d'une autorité. Le pouvoir législatif crée les lois. Il rédige les lois. Le pouvoir exécutif exécute les lois et le pouvoir judiciaire interprète les lois. Ce sont les avocats, les juges, etc. Mais bien que la Constitution soit peut-être le document le plus puissant jamais créé dans l'histoire de l'humanité, à part la Bible, en termes de gouvernements humains, bien sûr, je veux dire qu'elle a permis à l'Amérique de devenir la première autorité et la nation la plus prospère du monde. Mais même ce gouvernement, prenons le meilleur de tous les gouvernements du monde, même ce gouvernement a tellement de problèmes que vous et moi le ressentons encore aujourd'hui. C'est comme si nous pouvions sentir dans nos os tous les problèmes de ce gouvernement. Peu importe que ce soit un républicain ou un démocrate qui soit au pouvoir. Cela n'a pas d'importance. Le marché boursier va monter et descendre. Nous aurons toutes sortes de problèmes, comme par le passé. Si avec, qui sait quand Dieu enverra une peste comme il l'a fait avec le Covid et tout cela, le chaos s'ensuivra. Et les gouvernements de ce monde ne savent pas comment résoudre tous ces problèmes. Comment régler le problème des sans-abri? Comment régler le problème des immigrés clandestins qui se trouvent dans notre pays aujourd'hui? Comment régler tous ces problèmes? C'est impossible à régler. Ils peuvent avoir leur politique pour essayer de résoudre ceci, cela est l'autre chose. Mais en fin de compte, il y a tellement de problèmes avec le gouvernement, c'est pourquoi nous voyons tant de problèmes aujourd'hui. Mais avez-vous déjà réfléchi à ceci? Le gouvernement de Dieu, lorsqu'il remplace les gouvernements des hommes, n'a pas besoin d'une branche législative. Y avez-vous déjà pensé? Le pouvoir législatif est terminé. Voici le pouvoir législatif. La loi de Dieu nous est déjà donnée. Nous connaissons les lois de Dieu. Nous n'avons pas besoin de créer des lois dans le royaume. Voici donc ce que nous allons faire dans le royaume. Nous allons exécuter les lois et rendre des jugements en période d'incertitude. Vous savez comment cela s'appelle? Roi et prêtre. Dans le royaume, Dieu nous a donné la capacité de résoudre tous les problèmes de l'humanité en étant des rois et des prêtres. Nous faisons partie du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, parce que, mes frères, beaucoup de défauts dans la société viennent des lois. Les lois qui sont créées, les lois sont, il y a des failles et des failles dans les lois de l'homme d'aujourd'hui. Mais tout cela a disparu parce que Dieu a clairement établi ses lois dans la Bible. Nous n'avons pas à nous inquiéter de savoir comment nous allons gérer les impôts dans le royaume. Eh bien, c'est 10% plus facile. Est-il facile pour nous d'appliquer cette loi dans le royaume? Eh bien, payez-vous 10% ou ne payez-vous pas 10%? Est-ce que vous économisez la deuxième dîme ou est-ce que vous n'économisez pas la deuxième dîme? C'est simple. Où est le, mais vous, je veux dire, remplir vos impôts chaque année, c'est comme ces documents et c'est tellement compliqué. Si vous possédez une entreprise ou quoi que ce soit d'autre, c'est encore plus compliqué. Tout cela est déjà fait. Nous sommes rois et prêtres dans un gouvernement simplifié et nous enseignons les voies de Dieu. C'est puissant. C'est cela qui est passionnant. Frères et sœurs, regardez les Proverbes 29. C'est exactement la raison pour laquelle M. Armstrong a dit que le gouvernement est tout. M. Pack dit que le gouvernement est tout. Pourquoi? Parce que si le gouvernement est corrompu au sommet, tout se répercute sur la population en général. Tout sera difficile pour eux. Mais si c'est un gouvernement parfait, avec un Dieu parfait dans ce gouvernement, exécutant un jugement parfait, alors ce sera une société merveilleuse en dessous de ce gouvernement. Proverbe, chapitre 29 et verset 2, « Quand le juste est au pouvoir, le peuple se réjouit. Le peuple se réjouit. Mes frères, dans la société d'aujourd'hui, quand les méchants gouvernent, le peuple se lamente. Et c'est ce que nous devons supporter dans cette vie jusqu'à ce que nous les supplantions. Nous devons nous tenir à leur place pour gouverner les nations, et pas seulement les villes. Ce n'est qu'une partie. Régner sur les nations. C'est notre formidable potentiel. Maintenant, la prochaine série de points est que nous allons obtenir un pouvoir illimité. Il s'agit plutôt d'un exercice de méditation. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à écrire certaines de ces choses. Vous pourriez écrire des mots individuels pour décrire ce que nous allons vivre. Mais dans certains cas, vous feriez mieux de vous asseoir et d'écouter. Frères et sœurs, la puissance que nous allons recevoir est tout simplement stupéfiante. Et je veux vous l'exposer en vous montrant la puissance que Dieu possède. Nous allons recevoir le même pouvoir que celui dont Dieu dispose pour créer la terre et tout ce que nous y voyons. Pensez à la complexité de la création de la terre. Tous les arbres, toutes les plantes, la végétation, tous les animaux, les insectes. Les vastes écosystèmes complexes dans lesquels les plantes ont besoin des insectes pour les polliniser. Les insectes ont besoin du pollen des plantes pour créer du miel et d'autres choses. C'est Dieu qui a créé cela. Il a fallu un esprit capable de comprendre comment tout cela est interconnecté, comment il y a des arbres mâles et femelles, des plantes mâles et femelles capables de se polliniser les unes les autres, etc. Dieu ne nous a pas seulement donné ces choses pour la beauté, mais il nous les a données pour nous montrer son esprit. Regardez à quel point l'esprit de Dieu est complexe. Ce n'est pas un esprit simple. Il est très complexe. C'est comme l'écosystème que nous voyons et les différents types d'environnement. Il y a les déserts, les mers, les pôles où la terre est gelée en haut et en bas. Il y a les forêts tropicales. Il y a des montagnes. Dieu a créé des plaques tectoniques pour que la terre se déplace. Il a construit tout cela en utilisant son esprit. Maintenant, parce que vous allez faire partie de la famille de Dieu, vous aurez ce même esprit, vous aurez les capacités que Dieu avait pour créer toutes les choses que vous voyez aujourd'hui. Laissez-vous surprendre un instant. Il a créé les conditions météorologiques, les courants océaniques, l'activité volcanique et sismique, et bien d'autres choses encore. Et bien d'autres choses encore. Ce n'est que le premier point. Nous aurons le même pouvoir que Dieu avait pour créer les anges. Je ne dis pas nécessairement que nous créerons des anges, mais peut-être que nous le ferons. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui va se passer. Tout ce que je dis, c'est que nous aurons le même pouvoir que Dieu, et Dieu a créé les anges. Il a créé les caribous. Il a créé toutes sortes d'êtres célestes. Si vous revenez en arrière et que vous lisez Ézéchiel 1, regardez les choses que Dieu a créées, ces êtres spirituels dans Ézéchiel 1. C'est fascinant. Mais passez au chapitre 26 de Job. Regardez, mes frères, l'Esprit de Dieu. C'est incroyable. Job 26. Nous lirons au verset, nous reprendrons au verset 5. Job 26 et verset 5. D'accord. Ce sont des choses puissantes que Dieu a faites. Des choses mortes ont été formées sous les eaux et leurs habitants. L'enfer est nu devant Dieu, et la destruction n'a pas de couverture. Il étend le nord sur l'espace vide et suspend la terre au néant. En tant qu'êtres humains, nous regardons cela et nous disons, le nord n'est pas vraiment un objet, mon père. Il l'a fait. Il est capable de prendre le nord comme s'il s'agissait d'une sorte d'objet extensible et de le tirer au-dessus de l'univers. Qu'est-ce que c'est? C'est l'esprit que vous allez avoir. Vous serez capable de penser comme un être humain lorsque vous serez Dieu. Dieu peut étendre le nord sur le vide et suspendre la terre à rien, la suspendre au milieu de l'espace. Il lie les eaux à ses nuages épais, et le nuage ne se déchire pas sous lui. Les nuages, fascinants, contiennent des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'eau, mais ils ne tombent pas sur le sol. Je sais qu'il y a des explications scientifiques à cela, mais je suis assez simple, c'est difficile à comprendre pour moi. Je suis assez simple, c'est difficile à comprendre pour moi. D'accord. Peut-être que c'est aussi difficile à comprendre pour chacun d'entre nous. Peut-être qu'il y a des gens très orientés vers la science qui peuvent le comprendre et la pression et ainsi de suite. C'est Dieu qui fait cela. Dieu y a pensé. Disons que nous pouvons comprendre la science derrière les nuages. Dieu y a pensé. Comment pouvez-vous même penser à faire cela? C'est incroyable. Il retient la face de son trône et y étend sa nuée. Il a entouré les eaux de limite, jusqu'à ce que le jour et la nuit s'achèvent. Les colonnes des cieux tremblent et s'étonnent de sa réprimande. Il divise la mer par sa puissance. Par son intelligence, il frappe les orgueilleux. Par son esprit, il garnit les cieux. Il a rendu les cieux brillants, c'est ce que cela signifie. Sa main a formé le serpent tortueux. Il a créé Satan. Il est capable de créer des êtres spirituels et des êtres physiques. Mais, frère, verset 14, voici une partie de ses voix. C'est juste un petit peu, oh, c'est juste une petite fraction de ce que Dieu peut faire, de petites bribes de ce que Dieu est capable de faire, mais quelle petite partie entend-on de lui? Ce ne sont que de petits aperçus que Dieu nous a donnés de ce que son esprit est capable de faire. C'est le même esprit que vous aurez, mais le tonnerre de sa puissance, qui peut le comprendre? D'accord. Nous allons avoir le même pouvoir que Dieu a eu pour créer l'humanité, le cerveau humain, l'organisme le plus complexe jamais créé. Les yeux, les oreilles, les sens, comment Dieu a-t-il créé toutes ces choses? Comment a-t-il pu penser à créer toutes ces choses? Mais il l'a fait, et vous aurez aussi cette capacité. Chaque organe et comment ils fonctionnent ensemble, comment Dieu peut créer un bébé dans un utérus à partir de deux cellules qui se rejoignent. Ces cellules se multiplient et les os commencent à se former, les organes aussi. Et tout d'un coup, vous avez un tout petit bébé de cette taille, et il continue à grandir et à grandir et à grandir jusqu'à ce que le bébé sorte et continue à grandir et à grandir jusqu'à ce qu'il soit adulte. C'est ce que Dieu a voulu faire. C'est ce que Dieu a voulu faire. C'est le même esprit que nous aurons, le même pouvoir que Dieu a eu de jeter Satan sur la terre avant la recréation, puis dans le lac de feu après le millénaire. C'est le même pouvoir que Dieu a pour saisir deux coins de l'univers et les rassembler comme s'il pliait un pullover, le mettait dans un tiroir et en sortait un autre, dévoilant ainsi de tout nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est aussi simple que cela, mais c'est ainsi que Dieu peut plier les cieux, comme le dit Hébreu 1. C'est le même pouvoir que Dieu possède par l'intermédiaire de son Saint-Esprit pour maintenir ensemble chaque atome et chaque molécule de l'univers. Allez au chapitre 1 de Colossiens. En fait, je vais vous le lire. Vous n'avez pas besoin de vous tourner, je vais vous le lire. Mais notez-le dans vos notes. Colossiens, chapitre 1 et verset 16, dit ceci, car c'est par Dieu, par Christ, qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, qu'il s'agisse de trônes, de dominations, de principautés ou d'autorités. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et il est avant toutes choses, et c'est par lui que toutes choses subsistent, sont maintenues ensemble. L'Esprit de Dieu maintient l'univers ensemble. Je ne sais pas si vous le saviez, mais 96% de l'univers est composé de choses sombres, disons-le comme cela, de choses sombres. Comme à l'âge des ténèbres, les gens ne savaient pas grand-chose de ce qui s'est passé à l'âge des ténèbres, car c'est pour cela qu'on l'appelle l'âge des ténèbres. L'énergie et la matière sombre représentent 96% de l'univers. Il s'agit d'une énergie et d'une matière dont les scientifiques ne savent pas ce qu'elles sont ni comment les expliquer. Eh bien, frères, vous et moi, nous pouvons nous appeler des scientifiques aujourd'hui. 1. Dieu a tout maintenu ensemble par son esprit. Par son esprit, Nous comprenons ce qu'est cette énergie noire. Les gens ne veulent pas l'admettre dans le monde, mais c'est ce que c'est. L'Esprit de Dieu maintient tous ensemble. Nous aurons le même pouvoir que Dieu avait de ressusciter les morts, de guérir les os brisés et les maladies, d'enlever les larmes de tous les visages et le même pouvoir que Dieu avait de manipuler le temps. Pensez au moment où Josué, avec son long jour, s'est étiré pendant 24 heures de plus. Il y a tant de choses à considérer en ce qui concerne le pouvoir de Dieu et le fait qu'il est en réalité en dehors de l'espace et du temps. C'est fascinant. Passez au chapitre 12 de la deuxième épître aux Corinthiens. Nous serons en dehors de l'espace et du temps. Deuxième Corinthiens, chapitre 12. Je ne vous dis rien que vous n'ayez déjà entendu. Mais les avons-nous entendus tous ensemble? Avons-nous été inspirés par toutes ces choses, en comprenant la grande récompense, la pleine récompense que nous obtiendrons? Nous en avons peut-être compris des éléments, mais nous ne les avons peut-être jamais considérés dans leur ensemble. 2 Corinthiens, chapitre 12 et verset 1. Il ne me convient pas, sans doute, de me glorifier. J'aurai des visions et des révélations du Seigneur. J'ai connu un homme en Christ, il y a plus de 14 ans, en parlant de lui-même, Paul, je ne saurais dire s'il était dans son corps, ou s'il était hors de son corps, Dieu seul le sait. Cet homme a été enlevé au troisième ciel. D'accord? Paul s'est retrouvé dans une vision. Il ne sait pas si c'était une vision ou s'il était réellement dans le troisième ciel, mais il était dans le troisième ciel. Le premier ciel, c'est l'atmosphère de la Terre. Monsieur Pack en a parlé un peu plus longuement dans son récent message. Le deuxième ciel est l'espace, donc le troisième ciel est en dehors de l'espace, en dehors de l'univers. Dieu regarde l'univers comme un petit enfant regarderait un bac à sable, assis dans un bac à sable. Je vais prendre ma boule de sable et la mettre ici, mais c'est tout le bac à sable, ce n'est que l'univers. Il est en dehors de l'univers. Nous serons en dehors de l'univers. Nous sommes en dehors de l'espace et du temps. Saisissez-le. Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle celui qui habite l'éternité, celui qui est haut et élevé, et dont le nom est saint. Dieu est un Dieu qui habite l'éternité comme on habite une maison. L'éternité n'est pas une chose, mais pour Dieu, elle est par ce qu'il a créé le temps. Il faut prendre du recul et se rendre compte que nous parlons d'un être qui regarde le temps comme s'il n'était rien, mais qu'il peut le manipuler à sa guise. Il regarde l'espace et pense que je peux le manipuler comme je veux. Je peux l'échanger quand je veux. Je peux retenir la lune. Je peux maintenir le soleil en place. Je peux remonter le temps. Frères et sœurs, lorsque nous serons des êtres de Dieu, pourrons-nous faire la même chose? Nous serons en dehors de l'espace et du temps. Pourrons-nous voyager dans le temps? Pourrons-nous figer le temps dans notre esprit ou dans la réalité? Pourrions-nous voir comment c'était quand il n'y avait que le Père en Christ pour l'éternité dans l'histoire? Comment était-ce quand il n'y avait que le Père en Christ avant qu'il ne crée l'univers, les anges, tout? Pourrions-nous voir, pourrions-nous remonter le temps et voir Lucifer et tous les anges tels que Dieu les a créés avant qu'ils ne tombent? Ne serait-ce pas quelque chose que d'aller voir comment était Lucifer avant sa chute et tous les troisièmes des anges qui étaient encore des anges à ce moment-là avant qu'ils ne tombent? Pourrions-nous regarder l'évolution des nations et des empires à travers l'histoire comme une cassette VHS en avance rapide? Vous connaissez le son? Puis les gribouillés sur l'écran. Tout le monde bouge très vite sur l'écran. Pourrions-nous regarder l'histoire de l'humanité de cette manière? Ne serait-ce pas quelque chose? Pourrions-nous voir l'univers comme un minuscule grain de poussière? Pourrions-nous devenir si grands dans notre pensée, dans notre esprit, que nous verrions l'univers comme un minuscule grain, comme le fait Dieu, ou que nous verrions au plus profond des électrons d'un atome, que nous nous éloignions ou que nous fassions un zoom avant, Dieu a créé chacune de ces choses. Nous aurons aussi cette capacité. N'oubliez pas que c'est votre récompense. Frères et sœurs, alors que nous arrivons à la fin, tout ce que nous recevrons est éternel, tout. Nous allons recevoir une joie éternelle. Vous n'avez pas besoin de tourner là, mais vous pourriez noter dans vos notes ce verset qui me vient à l'esprit. Psaume 16, 11. En ta présence, il y a des plaisirs pour toujours, des joies pour le reste de l'éternité. Nous n'expérimentons pas la plénitude de la joie de la même manière aujourd'hui. Il y a des jours où nous sommes frustrés, en colère, peut-être tristes. Il y a des jours où ces autres émotions peuvent prendre le dessus, mais Dieu dit que nous aurons des plaisirs pour toujours. La joie que Dieu nous donnera fait partie de notre récompense. Qu'en est-il de la paix que nous voyons dans Ésaïe 9 et au verset 7 ? Nous l'avons déjà lu plus tôt, à propos de l'accroissement du gouvernement et de la paix de Dieu. Il n'y aura pas de fin. La paix de Dieu va régner parce que le gouvernement de Dieu est sur le monde. Lorsque vous avez un gouvernement parfait dirigé par des êtres divins parfaits, nous tous inclus, et que ce gouvernement continue de s'étendre pour le reste de l'éternité, la paix s'ensuivra. Plus de guerre, plus de faim, plus de soif, plus rien de tout cela, tous les problèmes que vous voyez dans la société d'aujourd'hui, les problèmes économiques, tout disparaît. La paix. Frères et sœurs, nous serons remplis de sagesse, de connaissance et d'intelligence. Une sagesse éternelle, une connaissance éternelle et une compréhension éternelle. Passons au chapitre 37 de Job. Job chapitre 37. Lisons le verset 14. Écoute ceci, Job. Dieu parle. Arrête-toi et considère les merveilles de Dieu. Rappelez-vous, à ce stade, que Dieu nous donne la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Verset 15. Nous aurons cette intelligence, nous aurons cette sagesse et cette connaissance. Savez-vous quand Dieu a disposé d'eux? Les œuvres de Dieu, et qu'il a fait briller la lumière, sa nuée. Dieu est parfait dans sa connaissance. Comment vos vêtements sont chauds lorsqu'il calme la terre par le vent du sud? Dieu est capable de faire tant de choses grâce à sa connaissance, sa sagesse et son intelligence. Avez-vous avec lui déployé le ciel, qui est fort, et comme un miroir en fusion, enseignez-nous ce que nous devons lui dire, car nous ne pouvons pas ordonner notre discours à cause de l'obscurité. Allez au chapitre 38 et au verset 4. Où étiez-vous quand j'ai posé les fondements de la terre? Dites, si vous avez de l'intelligence, qui en a posé les mesures, si vous savez où qui en a tracé le cordeau? Sur quoi sont fixés les fondements de la terre, et qui a posé la pierre angulaire? Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé les portes de la mer, lorsqu'elle s'est élancée comme si elle sortait du ventre de sa mère? Et quand j'ai fait de la nuée un vêtement dans les ténèbres épaisses, un linge pour elle. Dieu a fait des nuages une couverture pour le bébé. En vérité, il regarde la terre comme une mère regarde un bébé. C'est dire à quel point Dieu est grand. Nous servons un grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu élevé. Il est capable de regarder ces choses que nous considérons comme massives aujourd'hui et de les considérer comme si elles n'étaient rien et de les briser pour cela. Ma place décrétée et les barres et les portes fixées. Verset 11. Il dit, c'est ici que vous viendrez, mais pas plus loin, et c'est ici que vos vagues orgueilleuses seront arrêtées. Avez-vous commandé le matin depuis votre époque? Et fait connaître au printemps sa place, afin qu'il s'empare des extrémités de la terre, et que les méchants soient ébranlés. Il s'est transformé en argile pour le sot, et il se tient comme un vêtement, et pour les méchants, sa lumière est retenue, et le bras élevé est brisé. Avez-vous pénétré dans les sources de la mer, ou avez-vous marché à la recherche de l'abîme? Quelle est la profondeur de la terre? Quelle est la profondeur de la mer? Qu'il y a des sources qui jaillissent dans la mer? Les portes de la mort vous ont-elles été ouvertes ou avez-vous vu les portes de l'ombre de la mort? Dieu est plus grand que toutes ces choses. Il les a toutes créées. Et encore une fois, frères, c'est l'esprit même que vous et moi aurons. Passons au psaume 03. Nous arrivons à la fin. Encore quelques versets. Psaume 03, verset 12. Frères et sœurs, nous serons éternellement justes et sans péché. Le psaume 03, verset 12, dit ceci. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. Notez que Dieu ne dit pas du Nord et du Sud. Autant le Nord est éloigné du Sud, autant les transgressions sont éloignées. Dieu dit qu'elles sont enlevées aussi loin que l'Est de l'Ouest. Si vous partez du pôle Nord et que vous commencez à voyager vers le Sud sur le globe, vous finirez par atteindre le pôle Sud, n'est-ce pas? À ce moment-là, si vous continuez à voyager dans la même direction, vous n'irez plus vers le Sud, mais vers le Nord. Revenons au pôle Nord. Il existe une distance fixe entre le Nord et le Sud. Si vous voyagez, disons à partir de New York, et que vous commencez à voyager vers l'Est autour du monde, à quel moment commencez-vous à voyager vers l'Ouest? Jamais. Vous irez toujours vers l'Est. C'est pourquoi Dieu dit que la distance entre l'Est et l'Ouest est infinie. Il n'y a pas de point sur le globe où, si vous voyagez vers l'Est, vous atteindrez soudainement l'Ouest. Non. Si vous voyagez vers l'Ouest, vous irez vers l'Ouest pour l'éternité. Ce n'est pas du Nord au Sud. C'est dans l'Ouest, parce que Dieu dit que son élimination de nos péchés est éternelle et définitive. C'est tout. C'est la fin de l'histoire. Il enlève nos péchés aussi loin que l'Est de l'Ouest. Nous n'aurons plus à nous battre contre les pôles de la chair. Nous n'aurons plus la loi du péché logée dans notre esprit, dont Paul a parlé, qui combat l'Esprit de Dieu en nous. Nous ne serons plus tentés par le diable et persuadés par ses tactiques diaboliques, le Satan de la société. Frères et sœurs, c'est peut-être la chose la plus importante que je puisse vous dire. Ésaïe, chapitre 45. Le point le plus important que je puisse vous donner aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 45. Excusez-moi, et au premier verset. C'est la plus grande récompense, mes frères, ainsi parle le Seigneur à son oint, à Cyrus, dont j'ai tenu la droite pour soumettre les nations devant lui, et je délierai les reins des rois pour ouvrir devant lui les portes à deux battants. Ce n'est pas notre plus grande récompense, ce n'est pas de délier les reins des rois. Nous le ferons probablement aussi, mais ce ne sera pas l'une de nos grandes récompenses. Les portes ne seront pas fermées. J'irai devant vous et je rendrai droit les endroits tortueux. Dieu parle. Je briserai les portes des reins, je romprai les verrous de fer. Je vous donnerai les trésors des ténèbres et les richesses cachées des lieux secrets, afin que vous sachiez que moi, le Seigneur, qui vous appelle par votre nom, je suis le Dieu d'Israël. Il y a des choses que Dieu a, probablement déjà créées, ou peut-être encore à créer, je ne sais pas, qu'il appelle des trésors, qu'il appelle des richesses secrètes et cachées, que l'humanité n'a jamais considérées auparavant. Dieu va nous les donner à nous aussi. C'est pourquoi, à l'époque, où était-ce? Dieu a dit qu'il n'a fait que, je crois que c'était Job, nous montrer une partie de ses voies, une partie de notre récompense. Qui sait, mes frères, quel trésor Dieu a en réserve pour nous que nous ne pouvons même pas encore saisir? Des trésors cachés, des richesses secrètes dans des endroits secrets. Où les range-t-il? Je n'en sais rien. Les a-t-il déjà créés? Je n'en sais rien. Ce que je sais, mes frères, c'est que, comme un athlète olympique, je veux être là pour le voir. Je veux être là pour recevoir la médaille d'or, mais pour quelque chose de bien plus grand que la médaille d'or. Je veux que vous soyez là. Nous devrions tous vouloir que chacun reçoive cette incroyable récompense. Un dernier verset du chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux. Hébreux 2 et le verset 6. Mais quelqu'un, en un certain lieu, témoigna en disant, qu'est-ce que l'homme pour que vous vous occupiez de lui? Qu'est-ce que l'homme? Nous ne sommes que de petits morceaux d'argile sur cette petite boule appelée terre. Ou le Fils de l'homme, pour que vous lui rendiez visite? Vous l'avez abaissé au-dessous des anges. Vous l'avez couronné de gloire et d'honneur, et vous l'avez établi sur les œuvres de vos mains. Dieu a mis la domination, nous donne la domination sur les choses qu'il a. Vous avez soumis toutes choses, à ses pieds. Car en le soumettant, il lui a tout soumis. Il n'a rien laissé de ce qui lui est soumis. Mais maintenant, nous ne voyons pas encore toutes choses sous lui. Frères et sœurs, notre potentiel impressionnant est de tout recevoir. Tout. Ainsi, lorsque nous mettons ensemble tous ces versets et principes concernant notre récompense, nous réalisons plus que jamais à quel point la promesse de vie éternelle de Dieu est merveilleuse. C'est tellement plus que d'être un esprit et de vivre éternellement. Nous savions tous que nous allions être esprit et vivre éternellement. Nous brillerions, nous ferions toutes ces choses. Nous le savions. Mais avec cette connaissance étonnante de notre pleine récompense à l'esprit, sortons et souvenons-nous de garder le reste de la fête aussi bien que possible, avec autant de joie que possible. Bon appétit, mes frères.